ce nouvel épisode du Défi Bradbury, épisode 40. Vous vous rendez compte, 40, c'est quand même un truc de ouf. Et en plus, on a un peu de retard, donc normalement, on devrait même être un peu plus loin dans le compte. Mais c'est cool. Enfin, atteindre l'épisode 40, là, waouh, je suis auto-bluffé de cette performance. Donc, que dire si ce n'est, ouais, on touche de plus en plus au but. Donc ça, c'est vraiment bien, même si... c'est vrai que le début d'année dans son ensemble a été quand même super chaud pour la régularité. On tient quand même le cap. Là en plus, ça y est, je suis en vacances et puis ça va être des grosses vacances parce que je suis quasiment tout le mois de mai à la maison. Donc le temps de se refaire et de faire bien la suite. Et d'ailleurs, en parlant de bien faire, l'épisode donc du jour, à savoir Domo Arigato Mister Seismo, c'est, je crois, un des textes sur lesquels j'ai le plus sué ces derniers temps. Alors, sué dans le bon sens, où j'ai vraiment fait des trucs en y allant et en y mettant du cœur à l'ouvrage. Et notamment parce que je me suis fait beaucoup plaisir là-dessus. Parlons chiffres, c'est 8659 mots, 48494 caractères, donc plutôt dans le haut du panier en matière de quantité sur le défi. Et c'est un récit qui cumule plein de choses, dont je vais vous parler bien évidemment, c'est quand même le but de ce journal de bord. Donc c'est une convergence d'influence, mais c'est assez marrant parce que elles viennent d'un peu partout. Ah tiens, ça c'est mon téléphone qui a sonné, ça doit être parce que j'ai fait la publication sur Wattpad, et voilà, c'est l'annonce de Wattpad de mon téléphone, mais on s'en fout pour le moment. Alors je vous disais, oui, c'est un florilège d'influence. Alors je vais citer notamment la série Assassination Classroom, dont j'ai dû vous parler il y a quelques semaines de ça, où voilà, c'est un prof un peu bizarre qui débarque dans une classe et qui, grâce à son côté pas ordinaire, va remettre ses élèves en confiance. Là, je dirais que je revendique le fait de ne pas plagier complètement cette série-là. C'était ma crainte. Je vous le dis, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, merde, tu tapes un peu quand même beaucoup dans le même schéma, mais finalement, c'est des schémas qu'on retrouve aussi dans donc une autre influence, GTO, qui est un autre manga, on va dire professoral, avec un professeur complètement hors norme. Et je pense que voilà, c'est plus un schéma lié au genre que plus une série en elle-même que j'aurais pompé dans tous les sens. Et alors, autre particularité quand même, ça se passe dans le monde des enfers, donc qu'on commence à bien connaître à force d'avoir 50 millions d'histoires là-dessus. Et je me suis dit, c'était le parfait terrain de jeu pour ce genre de conneries, notamment parce que ça permettait aussi d'avoir des élèves un peu bizarres et pas simplement un prof hors norme. Là, c'était les deux. Et c'était d'autant plus rigolo que c'était des petits, donc on peut faire des trucs mignons, des trucs rigolos, une ambiance qui correspond bien finalement à ce que commence à devenir le monde des enfers dans les différentes nouvelles que j'ai écrites. Si vous lisez, c'est un peu toujours le même ton qui se dégage, qui peut être parfois sérieux. C'est notamment l'épilogue, hein, quand on voit la fin de l'histoire, il y a une petite touche un peu sérieuse, mais c'est avant tout des trucs que j'écris pour me faire plaisir, pour que ça soit rigolo, et puis pour que ça soit un peu classe, épique. Ça reprend aussi beaucoup d'éléments du genre du Sentai, donc ce qu'on connaît en France plus sous le nom de Power Rangers ou Bioman à une époque. Les séries avec voilà, les justiciers en costume lycra moulant qui font des galipettes dans les carrières avec des explosions de feux d'artifice de partout et des monstres en latex. Et le personnage en lui-même de Mister Seismo, il a un peu de ça, quoi. Alors d'ailleurs, pourquoi il tient de ça et pourquoi il a ce nom tout bizarre, encore dans les influences cheloues, c'est parce que là, donc la gimmick à la fin, Domo Arigato Mister Seismo, et donc le titre de la nouvelle, ça vient d'une chanson du groupe Polysix, qui est un groupe japonais complètement craqué. Alors c'est pas forcément toujours super écoutable ce qu'ils font, parce que ça oscille dans une espèce de punk un peu foutraque, un peu matinée d'électro. Enfin, c'est assez gloobie-boulga ce qu'ils font, donc selon les titres sur lesquels vous tombez, vous allez pouvoir trouver ça complètement génial ou complètement à chier. Donc la chanson qui m'a inspiré ce titre s'appelle Domo Arigato Mister Roboto, qui est elle-même une reprise d'un groupe américain qui s'appelle Styx et qui avait fait une chanson qui portait ce titre. Alors c'était dans le cadre d'un album concept, je ne vais pas vous faire le détail complet de l'historique du truc, mais voilà, gardez en tête que c'est quand même quelque chose qui vient de très très loin, qui a subi plein de métamorphoses. Et donc le clip de Polysix, donc la reprise, pas l'original, ça met en scène un robot géant. Alors un acteur robot géant, c'est pas trop, c'est... vous imaginez le robot géant, donc il est sur un tournage en train de faire une scène, puis d'un seul coup il pète un plomb, il sort du studio et commence à faire le con, il s'amuse à sonner chez les gens, à partir en courant, il va en boîte, il casse la gueule au DJ, il fume, enfin c'est... le clip est super drôle, hein. Trouvez ça sur les internets, vous allez bien vous marrer. Et voilà, il y avait cette atmosphère japonisante qui était présente. De toute façon, voilà, domo arigato, c'est merci beaucoup, quoi. Et je me suis dit, ouais, Mister, voilà. Bon, je voulais pas prendre Mister Roboto parce que ça collait pas trop avec le truc des enfers. Et qu'est-ce qui est un peu un robot, un peu pas vraiment un robot, voilà, un héros de Sentai. Donc pour la sonorité, séismo, voilà, Japon, séisme, le mec il s'est pas foulé, quoi. Mais du coup, ça faisait un tout qui marchait bien, qui avait ses différentes teintes, ses différentes influences, tout en restant original autant que faire se peut, notamment avec toutes les particularités des enfers, et notamment les démons qui ont tous des catégories toutes bizarres, et où finalement chaque enfant à la fin va se découvrir sa propre démonologie qui le sortira du cadre et qui lui permettra de s'affirmer pleinement, comme par exemple Jim Jam qui devient un paladin du mensonge, ce qui est quand même en soi un concept plutôt fumeux. Mais bon, tout ça pour dire que ça a fortement imprégné l'histoire. Et puis il y a un autre truc qui a influencé, qui est beaucoup moins évident à voir et pour cause, c'est mon expérience personnelle en tant que prof. Alors je vais mettre des guillemets parce que de par mon activité, oui, j'ai fait la classe à des gens ou autre, mais c'était plus de la formation pour adultes. Donc entre guillemets, je connais le dilemme de l'enseignant et des choses comme ça. Après, j'ai pas beaucoup pratiqué ça dans les petites classes, même si j'ai fait à une époque des classes de maternelle. Alors, le contexte, je vais pas développer, mais voilà, pendant un temps, je m'occupais vraiment de tout petit Piou, et j'en ai gardé un très très bon souvenir. Et quelque part, voilà, il y a des petits moments qui sont distillés, des réactions de comment on est vu par des mômes qui, voilà, qui sont tout petits, qui connaissent pas la vie et qui vous voient comme étant une référence. Vous êtes le prof, c'est évident que vous savez tout, vous pouvez tout faire. Et quand il y a cette admiration là, c'est juste grisant, quoi. Et donc voilà, j'en ai mis un petit peu dans ce Mister Seismo. Alors l'histoire, elle a vraiment été... elle n'a pas été conçue dès le départ avec ce cheminement-là, même si c'est arrivé assez vite. Donc je savais que je voulais faire ce professeur un peu bizarre. La révélation comme quoi il est humain à la fin, c'est venu en cours de route. Ça m'a paru très intéressant de renverser les codes des histoires des enfers. Et surtout, le fil de l'histoire n'était pas une repompe des autres éléments que j'ai cités en tant qu'influence. Quoique, si on y regarde bien, dans Assassination Classroom, j'ai presque envie de dire que c'est le dilemme inverse, puisque bon, on sait que le personnage est tout bizarre, mais on ne connaît pas ses origines. Ouais, si, non, il y a peut-être un peu d'influence, finalement, en vous disant tout ça, je me rends compte qu'il y a peut-être eu beaucoup plus d'influence que je ne l'aurais voulu, mais bon, vous le savez, je reconnais toujours mes influences déjà, puisque la preuve, je vous les cite, et je ne pense pas être un vulgaire plagieur. Tout au plus, je reprends ce que j'aime bien, et puis je le fais à ma sauce. De toute façon, j'aime pas du tout... Je suis très anticonformiste dans le premier sens du terme. Je suis le vrai anticonformiste, celui qui fait autre chose parce qu'il veut absolument pas faire comme les autres. Et quel que soit ce qu'il pense de, c'est très rare que que j'aime faire comme tout le monde. C'est un défaut, hein, mais donc quelque part ça m'immunise contre la copie parce que je recopie juste bêtement, je ferais ah, mais tout le monde fait ça, moi j'ai envie de faire autre chose. Alors bah ça c'était donc pour le texte de la semaine qui donc bah, rajoute une pierre à l'édifice du monde des enfers qui bon bah à mon avis il y aura un tome, je vais faire éditer un tome avec toutes les histoires des enfers parce que je ne compte pas m'arrêter là. Il me reste 12, attends, 12 histoires, c'est que dalle en fait. Quand je pense que quand j'ai commencé voilà, j'en avais une cinquantaine là, il me reste plus que 12, 12 c'est que dalle. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a déjà fait comme parcours, c'est dément. Ah là là. Donc oui, ce 40e épisode, c'est quand même un. Ça marque quand même un seuil critique. Parce que là, on touche vraiment au but. Je ne pense vraiment pas que ça va s'arrêter là. Donc ben, je ne sais pas quoi en dire. Je crois que j'avais déjà eu ce dilemme-là la fois dernière. Donc je me répète un peu. Ce qui est normal au bout de 40 fois. Et pareil, ce podcast, je réalise petit à petit que ben, d'ici pas longtemps, il va falloir que je l'abandonne ou que je trouve un autre moyen de le faire vivre, mais ça m'interpelle. Bon, allez, je passe sur ces états d'âme qui auront bien le temps de se manifester pour faire un petit point d'actu de la semaine. Alors, un petit point vraiment vite fait et puis complètement décalé parce que bien évidemment là j'ai bah normalement oui alors je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, le texte aurait dû arriver dimanche dernier mais c'était évident que vu ce que je voilà j'ai eu des invités ou autres, je l'aurais pas fait. Le début de semaine a été assez sportif aussi donc au niveau boulot donc voilà décalage. En plus j'ai un ami qui est passé, que c'était pas prévu, donc ça m'a encore décalé. Et le fait que j'ai vraiment voulu creuser beaucoup plus m'a encore décalé. Donc voilà. On tire, on tire, on tire. Mais voilà, pour en revenir aux actualités, je vais vous faire un lot. Donc je vous le rappelle, le passage actu, c'est l'actu qui m'intéresse moi, pas forcément les grandes actus de ce monde qui parfois me désespère. Donc je préfère parler d'autres choses. Et je vous parlais donc à la fois du Red Bull Kumite et de la Kakutop. Donc c'est du jeu de combat, c'est du Street Fighter V. Où notamment le Red Bull Kumite, c'était absolument bluffant. C'est-à-dire que de 14h à plus de 20h, je ne me rappelle plus l'heure exacte qu'il était quand c'est fini, mais moi je suis resté scotché à regarder un tournoi de jeu de baston. Alors de base j'aime bien ça. Mais les tournois en général, au bout d'un moment, j'en ai un peu ras le cul. Et là, il y avait une telle organisation, une telle hype. Les mecs étaient tellement au taquet, en plus d'un tournoi sur invitation. Donc ça écrème vraiment les mecs qui seraient là un peu au pif. Hein. Il y a vraiment que du lourd. Et c'était fou, c'était complètement fou. KQTOP, c'était un peu pareil, mais le système est moins propice au spectacle dans le sens où c'est un tournoi par poule avec des points par match. Donc il n'y a pas d'élimination. C'est vraiment, on fait ses matchs, on enchaîne, c'est un peu un marathon. Donc, regardez, c'est moins spectaculaire, c'est intéressant, mais c'est pas pareil. Et voilà, ça me fait titiller les antennes parce que bah, ça montre que malgré toute la dégueulasserie qu'on a pu dire au début, le jeu est en train de prendre ses marques et qu'il est beaucoup plus spectaculaire que son prédécesseur. Ce qui fait que les matchs sont vraiment super intenses, super vifs. La moindre erreur, c'est la punition directe. Donc, ça fait le taf, ça fait le café. Et donc c'est plutôt cool et sympa à regarder. Alors dans les autres trucs, je suis pas une contradiction après, vous le savez, donc je vais quand même vous parler des événements en cours sur la loi El Khomri, donc la fameuse loi travail, qui est en étude alors c'est au Parlement. Et bah, c'est chaud parce que tout le monde craint un passage en force. Tout le monde craint que toutes les saloperies qui sont proposées arrivent et que ben, ce soit encore une fois les forces patronales qui remportent la timbale. Alors, moi, disons que j'ai la chance d'être dans une position de salarié où je ne crains pas trop de ce côté-là, même si on est à l'abri de rien. Mais en tout cas, pour l'instant, ça m'affecterait pas. N'empêche que ce qui est effrayant, c'est de voir que donc il y a des mouvements de contestation pacifique, civique, de ce truc-là, et que dans un gouvernement de gauche, les flics, enfin les flics, les CRS, les forces de l'ordre, voilà, chargent les manifestants. Alors, comme d'habitude, il y a des casseurs, on se demande toujours d'où ils viennent ceux-là, qui bien évidemment mettent le feu aux poudres, et comme par hasard, ça justifie des actions musclées des compagnies républicaines de sécurité notamment. Donc je suis quand même pas super optimiste par rapport à tout ça. Sachant qu'en parallèle, le gouvernement il est devenu complètement schizophrène parce que avec les élections qui approchent, c'est des promesses en veux-tu en voilà, baisse d'impôts pour les plus pauvres. Enfin, notre président essaie de se refaire une vertu, j'en sais rien. Sauf qu'à côté de ça, il fait une merde pas possible sur justement un truc qui va le faire détester par tout le monde. De toute façon, c'est déjà le cas. Donc voilà, je sais pas trop où vont ces gens. Et puis surtout, bah, tous les gens qui soutiennent ces conneries, toutes les récupérations, notamment d'extrême droite, qui en remettent une couche. C'est usant, c'est fatigant. J'ai vraiment hâte que ce quinquennat il se termine et qu'on passe à autre chose. En espérant qu'on n'ait pas le syndrome américain avec Trump. Allez, je vais parler de ça aussi. Donc en me contredisant vraiment sur le côté, non, non, je ne parle pas de la grosse actualité. On finit toujours par parler de la grosse actualité. C'est que voilà, l'affiche finale pour les présidentielles américaines commence à se confirmer. Donc ce serait un duel Trump-Clinton. Alors, évidemment, pour moi, le choix il est ultra simple, parce que Trump, c'est quand même le mal incarné. Le type continue malgré tout à faire des déclarations complètement hallucinantes de conneries, à faire vraiment de la politique de comptoir. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que Trump, c'est un mec qui a une grosse logique de beauf. Je veux dire, vous l'entendez parler, c'est Dédé du café du commerce, quoi. Mais ce mec-là est bourré de thunes à un point que pas possible. En plus, il contrôle des médias ou autre. Eh ben donc, il peut le laisser. Enfin, on en est à un point où on peut tenir ce genre de discours. Enfin, mais je bafouille un peu. Et arriver à être légitime pour une candidature, une investiture à la présidentielle. Je veux dire, c'est complètement fou. C'est-à-dire que en étant populiste, démago, tout ce qu'on veut, et ben a priori, si on a le pognon, ça passe. Ce qui est voilà encore une constatation un peu triste de notre société. Alors, heureusement, il y a le pendant inverse, et je voudrais finir sur cette note positive. Il y a beaucoup d'actions qui émergent depuis Internet, notamment. Par exemple, le collectif. Alors, je ne sais pas s'ils se font appeler collectif comme ça. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si j'ai mal dénommé votre mouvement. Donc, c'est On vaut mieux que ça, le hashtag qui circule pas mal sur les réseaux sociaux, qui eux bah, essayent de monter une action, mais une réflexion aussi sur la loi travail. Aux États-Unis, pareil, il y a beaucoup de mouvements contre Trump, même au sein même de sa mouvance. C'est-à-dire que le mec, il est tellement ouf que même des républicains en sont à se dire non, non, mais ce mec-là, faut l'arrêter. On en est à ce stade-là quand même. C'est assez fou. Donc, ouais, les choses sont pas cool, mais il y a encore des gens qui se disent que justement, c'est pas cool, qui agissent en disant non, c'est pas cool, il faut pas laisser faire. Bah ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment le truc de se dire, bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas bien dans la vie, mais au moins, on essaye de les changer. Des fois, on réussit, des fois, on réussit pas, mais au moins, voilà, on essaye. Ce sera sur cette note de positivisme extrêmement exagéré que je vais vous laisser. Donc, sur cet épisode 40, merci encore beaucoup à tous de venir, de laisser des commentaires, que ce soit sur les forums ou autres. Il y a de plus en plus de gens avec qui j'échange et qui me font des retours. Et donc c'est top, je suis aux anges. Merci aux gens aussi qui soutiennent un peu plus précisément le projet, que ce soit en me faisant des corrections ou des remarques ou simplement en me disant bah, c'est cool, vas-y, continue. Ça, c'est toujours le genre de choses qui font plaisir. Voilà, donc c'était l'épisode 40, eh oui, 40 du journal de bord du défi Bradbury. Étant donné que nous sommes samedi matin, qu'il est 2h35, je doute que le prochain épisode sorte dimanche, notamment parce que ce soir je fête mon anniversaire. Youpi, bon anniversaire à moi. Même si en fait c'est demain, c'est le 8 mai si ça vous intéresse. Vu que je suis en vacances, je pourrais aller en cravachant bien mardi, mercredi sortir un épisode. En fait, je vais essayer de faire 2 à 3 épisodes la semaine prochaine. J'ai peut-être les yeux plus gros que le ventre, mais 2 à 3 épisodes, ça me semble pas déconnant. 2 sûr, 3 peut-être. Et puis comme ça, paf, on sera bien recalé sur le rythme standard. Et donc, on pourra enfin se dire que voilà, le défi finira à la date prévue. En attendant, eh bien, permettez-moi de vous souhaiter un bon week-end, une bonne fin de tout ce que vous voulez. Et puis, bah, à très bientôt. Salut à tous!